7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiech.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Aujourd'hui, 24 avril, c'est le centenaire du génocide des Arméniens. C'est un 24 avril de 1915 qu'étaient massacrés 600 membres de l'élite arménienne à Constantinople, qui deviendra Istanbul en 1930. Jusqu'à 1 500 000 d'Arméniens allaient périr dans ce qui était alors l'Empire Ottoman. La République turque, qui succède à l'Empire Ottoman, refuse aujourd'hui encore de qualifier ces massacres de génocide. La France reconnaît, elle, publiquement le génocide arménien depuis 2001, comme une vingtaine de pays avant elle. Aujourd'hui, les voisins, parce que l'écrivain sénégalais Birago Diop l'a si bien écrit dans le poème Souffle, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Nous nous intéresserons aux descendants des rescapés, la diaspora arménienne un peu dans le monde, beaucoup en France, la France qui compte la plus grande communauté arménienne d'Europe occidentale, dit-on, soit environ 600 000 personnes. Alors, comment fonctionne cette communauté? Quelles en sont les dynamiques? Plus largement, les voisins, que pensez-vous personnellement de la notion de commémoration? La trouvez-vous structurée ou au contraire facteur de tension? Et aussi, la diaspora arménienne étant disséminée partout dans le monde, peut-être avez-vous rencontré des Arméniens, que vous nous écoutiez en Inde, à Singapour ou en Éthiopie ou en Côte d'Ivoire. Appelez, témoignez naturellement si vous-même êtes un voisin arménien et que vous souhaitez partager avec nous ce que cette identité représente pour vous. Vous êtes le bienvenu. Un seul numéro, 33 1 84 22 71 71. Pour aborder avec nous la diaspora arménienne, il nous fallait des guides, les voisins. Ils sont trois. Mario de Panossian, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au journal Nouvelles d'Arménie Magazine. Cécile Gull, bonjour.
Bonjour.
Présidente de G2IA, Groupement Interprofessionnel des Arméniens.
Oui, merci. International.
International. Des Arméniens. Éric Dadian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Cercle Professionnel Arménien, entre autres choses, nous le découvrirons. Vous nous découvrirons un peu plus ce que vous faites les uns et les autres dans le corps de l'émission. Le souvenir est une notion importante, semble-t-il, dans la communauté arménienne. Et cette émission nous permettra certainement de comprendre pourquoi. Longtemps tabou dans les familles des rescapés, les premières générations, le génocide est aujourd'hui beaucoup plus librement évoqué au sein de la diaspora, notamment en France. Charlie Dupiot a rencontré trois membres d'une famille. Ils se sont rendus en Arménie il y a 2 ans. Certains y sont retournés cette semaine à l'occasion du centenaire du génocide pour se souvenir.
Je m'appelle donc Thierry Ofsepian, mon prénom arménien est Rafi, donc bien l'origine arménienne. Je suis de la troisième génération en France, mes grands-parents sont arrivés. Ils étaient présents au moment des événements de 1915, donc au moment du génocide arménien de 1915, et ils l'ont subi. Ils me l'ont raconté quand j'étais jeune. Une de mes grand-mères avait 2 ans, donc elle connaissait pas beaucoup rappeler des événements. Par contre, un de mes grands-pères était plus âgé, il avait 10 ans. Et il m'a cité un certain nombre d'anecdotes qu'il a vécu, la séparation avec ses frères, avec sa famille, les parcours seuls sur les chemins, comme un enfant isolé qui erre dans la campagne où il a dû faire le mort au milieu d'un certain nombre de cadavres pour éviter d'être lui-même tué. Donc ce sont ces petits fragments en fait de photographies du génocide et de la séparation familiale et des sévices que les uns et les autres enfants à l'époque, y compris eux, ont pu subir, qu'ils me racontaient, y compris aussi le fait qu'il a été récupéré par des familles turques ou par des familles kurdes qui les ont un petit peu aidés, un tant soit peu aidés, nous donner à manger en contrepartie de travail. En tout cas, ils les ont utilisés et c'est comme ça qu'ils ont survécu.
Vous, cette histoire-là, c'est quelque chose que vos grands-parents, en l'occurrence là, ce grand-père, a pu vous raconter.
Oui.
Est-ce que vous l'avez transmis, vous, à vos enfants?
Absolument. Ce genre d'histoire, mes enfants le savent. On en parle régulièrement parce que je considère qu'ils doivent transmettre, en fait, cette information eux-mêmes. Ce sera la 4e génération implantée en France, qui vit en France depuis l'origine, elle, cette 4e génération, parfois mariée avec des Français. Donc s'ils peuvent garder au moins l'histoire, au moins le vécu du passé par le biais de ce genre d'anecdotes, oui, c'est fondamental et je leur transmets. Et là, récemment, en les emmenant tous ensemble en Arménie, j'ai organisé un petit voyage avec toute ma famille, mes 3 enfants, les amis de mes enfants. Ça a été un élément catalyseur, je dirais, pour qu'ils comprennent qu'il y avait derrière leur vie française une autre vie, quoi, qui existait.
Et puis il y a un mémorial du génocide aussi, à Erevan, dans la capitale.
Lors de notre voyage là-bas, on a pris une photo familiale où tous les membres de la famille dans lequel du sang arménien coulait se sont réunis, sont tenus la main autour de ce mémorial. Ça a été un moment extrêmement fort de notre voyage.
Je suis la fille de Thierry Obsépian. J'ai 23 ans et je suis pianiste. C'est vrai qu'on a été beaucoup bercé par cette non-reconnaissance aussi du génocide par les Turcs et ces relations très difficiles avec la Turquie. Et un sentiment un peu de gêne, nous, quelle relation on doit adopter aujourd'hui, même avec des Turcs? C'est une question qu'on se pose, moi, dans mon contexte musical, où il y a des musiciens turcs très bons aussi également. La question arménienne n'est pas forcément au cœur du débat à chaque fois, mais ce qui est drôle, c'est que quand je me présente et que je dis le nom, Obsépian, non, a tout de suite un regard un peu particulier, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Ah bon, t'es arménienne? Mais on peut quand même parler. Je dis, bah, bien sûr, on est, malgré le poids de l'histoire, on reste deux êtres humains aujourd'hui. On n'était pas là non plus il y a 100 ans. C'est pas lui, personnellement, qui a massacré les personnes de ma famille non plus. Donc, il faut rester ouvert d'esprit, mais sans oublier ce qui s'est passé.
Certains jeunes se détournent aussi un peu de cette histoire-là en disant que c'était il y a 100 ans. Est-ce que vous, c'est un sentiment que vous pouvez avoir?
Pour nous, je pense que c'est totalement notre histoire. On est peut-être la quatrième, cinquième génération. Mais moi, j'ai eu un moment où j'avais 10, 12 ans. J'ai eu le besoin d'apprendre les lettres de l'arménien, de me faire beaucoup de recherches, de poser beaucoup de questions au papa. Tout ça se traduit comme ça.
Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce 24 avril?
Rencontrer la communauté arménienne de Paris. Et puis, j'ai pas la chance, moi, d'aller comme ma cousine en Arménie, qui va être vraiment sur les lieux de l'action, j'ai envie de dire, de là où vraiment ça va se passer.
Toi, tu es donc sa petite cousine et tu vas partir en Arménie pour le 24 avril.
C'est un voyage qui a été organisé par ma famille, donc je pars avec mes grands-parents et ma mère uniquement. J'étais allée en Arménie il y a 2 ans, donc je m'attends à quelque chose de plus solennel. J'y vais quand même pour une raison différente de la dernière fois. C'est pas pour découvrir le pays, c'est pour montrer qu'on est là, quoi, en tant que membre de la diaspora arménienne. En tant que jeune, ouais. J'ai pas du tout baigné dans cette histoire de génocide étant jeune. On n'en a pas trop parlé, sans pour autant le cacher, mais je veux dire, à la maison, c'est un sujet qu'on n'abordait pas. C'est seulement pendant mes vacances chez mes grands-parents, le 24 avril, comme ça, qu'on emmenait à des manifestations, mais je comprenais pas. J'entendais le mot génocide en étant enfant sans même savoir ce que ça voulait dire. J'avais pas la conscience d'être arménienne. Et c'est tout récent, justement, bah, peut-être à cause de ce qui se passe en ce moment, le fait que ce soit le centenaire, qu'on parte en voyage, j'ai vraiment fait des recherches, mais par contre, j'ai quand même du mal avec le négationnisme. Enfin, je comprends pas. C'est pire que nier ce qui s'est passé, c'est vraiment nous rabaisser en disant, mais en nous faisant passer pour des menteurs. Ouais.
Qu'est-ce qui est prévu ce 24 avril quand tu seras en Arménie?
Ben, on va manifester, on va défiler au mémorial du génocide, donc se recueillir en famille.
Merci à Charlie Dupiot pour ce reportage. Je me tourne vers vous, la journaliste Marie-Aude Panossian. D'abord, est-ce que vous confirmez ce chiffre de 600 000 Français d'origine, 600 000 Arméniens?
Écoutez, je dirais grosso modo entre 500 et 600, sachant qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites, donc c'est compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qui est vraiment arménien? Est-ce que c'est quand on a les deux parents, on a la moitié, on a un quart? Enfin voilà, bon.
Est-ce que chaque Arménien en France est descendant de rescapés, nécessairement?
Alors, je dirais la majeure partie, oui. Mais la diaspora arménienne de France est faite par vagues successives. Et je dirais que la dernière vague, qui correspond à l'arrivée des Arméniens d'Arménie, eux ne sont pas forcément descendants de rescapés. Mmh. Voilà.
Éric Dadian, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce reportage où on a vu l'importance de la transmission de la tragédie, de l'histoire de la tragédie, mais aussi transmission des solidarités qui peuvent se manifester en cas de grand drame comme celui-là?
Oui, bien sûr. Je pense que ce qui nous caractérise aussi, c'est le moyen. On a notre étoile de David dans notre nom. Donc oui, moi j'appartiens à la troisième génération. Hein. J'ai appris que mon grand-père avait été pendu, mais il a réussi à enlever sa corde et à se sauver. Donc il a été rescapé.
Donc vous l'avez entendu, ça?
Ça, je l'ai entendu. Je l'ai pas connu, il est mort trop jeune. Mon père me l'a raconté parce qu'il parlait très peu, il se cachait, il voulait surtout oublier, s'intégrer, parler le français. On parlait pas l'arménien à la maison, hein. Donc moi,
donc
je ne parle pas.
Votre grand-père a réussi à fuir, à échapper à ses bourreaux.
Oui.
et a émigré en France.
Il a réussi à émigrer, il est passé par la Roumanie et il est arrivé en France parce que c'est la tradition des Dadians qui habitaient Istanbul, c'était d'étudier sur Paris au Collège Sainte-Barbe. Donc ils sont venus naturellement, je dirais, en France. Ils adoraient la France.
Et puis ils faisaient partie de cette élite qui était visée.
Ils faisaient partie de cette élite. Alors moi, je me souviendrai toujours de mon père qui me disait « On remercie la France de nous avoir accueillis. Il faut que tu redonnes. » Il m'a inculqué un certain nombre de valeurs, de famille, de travail, de respect des autres. « Il faut que tu redonnes à la France. » Et c'est ce que je me suis attaché à faire et ce que j'apprends aussi à mes enfants de quatrième génération. C'est par le travail, par la création d'entreprise, je suis un entrepreneur, on redonne à la France ce qu'elle nous a apporté. Donc on crée de l'emploi et on se développe sur ce territoire. Vous verrez que après, si vous me posez des questions, j'ai eu pas mal de combats pour essayer de m'engager sur la création.
Et avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a cette histoire, cette conscience précise de là d'où vous venez. Cécile Gull, vous aussi, j'imagine, avez entendu l'histoire de vos grands-parents marquée par ce génocide. Comment on le porte quand on est adolescente, puis jeune femme qui travaille?
Alors effectivement, pour ma part, j'ai grandi dans une maison avec mes parents et mes grands-parents durant les 4 premières années de ma vie. Et mon grand-père, effectivement, est un rescapé du génocide et je l'ai connu directement et pendant de longues années puisqu'il nous a quittés lorsque j'avais 20 ans.
Donc il vous en a parlé?
Il m'en a parlé et c'est vrai qu'il m'en a parlé avec beaucoup de calme, mais également avec une infinie tristesse qui finalement a marqué, je pense, mon enfance et je pense qui m'accompagne en fait jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, les années venant, j'ai appris également à vivre cet héritage de façon, je dirais, également plus légère.
Oui, qui n'est pas un héritage des plus légers quand même.
Tout à fait.
Il peut être vécu comme un fardeau.
Alors, ce n'est pas une fardeau.
Comme
je
un
dirais
poids.
Plutôt que c'est une responsabilité. Une responsabilité d'être digne pour tous ceux qui malheureusement n'ont pas pu redonner la vie et ont péri dans des circonstances dramatiques, et puis également une façon de continuer et puis d'avoir une singularité, de porter cette singularité autour de nous. Et également on m'a aussi enseigné un certain goût de l'excellence qui parfois n'est pas non plus évident à porter, et je crois que c'est quelque chose que l'on peut aussi
il fallait être meilleur que les autres forcément.
Voilà, oui. C'est quelque chose forcément que vous pouvez également partager autour de la table. C'est quelque chose qui n'a pas forcément été dit mais qui est induit dans notre quotidien, et peut-être que voilà.
On continuera d'en parler. Dignité, singularité, identité. C'est la vie de la diaspora arménienne dont nous parlons aujourd'hui, les voisins, jusqu'à 13h. Tout de suite, c'est la musique de Viken. Ça s'appelle Arménien, au pluriel, d'ici ou d'ailleurs.
Je veux être un exemple pour les miens, tout comme les théories de Jarquet. La revendication de la salade me quitte comme un chef d'orchestre. La souffrance du génocide, inscrite dans mon génotype. Je prends du recul et j'exclus la violence gratuite. Je battrai pour mes idées, tout comme Isaac Manouk. J'envoie mon bled, je l'ai vu qu'au ciné. Tu comprends le déracinement, éparpillé, tropillé, estropillé. Aden, Derry, Haïga, faut pas oublier. 1915, soit à l'année, je suis fatalité. Pour nous, fatalité, se dissocier de la facilité. Français d'origine arménienne, victime de la bohème comme Aznavour. Du riz dans des feuilles de vigne, c'est un peu de chez moi que je savoure. Hayastani Amar, Arpel, même si j'éclate, diaspora pour repère. Yerevan a trop souffert du génocide au tremblement de terre. Malgré ça, on est soudés, solidaires. À ma mort va graver Viken sur Arachkar. Ouais, frère, je lève la voix pour la communauté. C'est un message de paix que je viens communiquer. Hayastan, Hayastan, c'est une histoire trop compliquée. Arménien d'ici ou d'ailleurs, je viens vous représenter. Ouais, Arpel, je lève la voix pour la communauté. C'est un message de paix que je viens communiquer. Hayastan, Hayastan, c'est une histoire trop compliquée. Arménien d'ici ou d'ailleurs, je viens vous représenter. Arrêt péché pour tous les déracinés venus en France pour se réfugier. Arméniens de France, de Syrie, de Turquie, de Russie, du Liban ou des States. Hayastan si aussi, malgré les soucis, un passé plein de péripéties. La prospérité nous tend les bras. Savoir vivre, c'est tout d'abord aimer la vie, accepter ses échecs, prendre du recul pour repartir sur de bonnes bases. Ouais, RPL, je lève la voix pour la communauté. C'est un message de paix que je viens communiquer. Hayastan, Hayastan, c'est une histoire trop compliquée. Arménien d'ici ou d'ailleurs, je viens vous représenter. Ouais, RPL, je lève la voix fait. C'est un message de paix que je viens communiquer. Hayastan, Hayastan, c'est une histoire trop compliquée. Arménien d'ici ou d'ailleurs, je viens vous représenter.
Weekend, ça s'appelle Arménien d'ici ou d'ailleurs. Les voisins, aujourd'hui, c'est le 24 avril, journée de commémoration du génocide des Arméniens. Et nous essayons de comprendre comment fonctionne la diaspora arménienne, en France notamment, mais un peu partout dans le monde. D'ailleurs, si vous, vous connaissez des Arméniens, ou si vous êtes Arménien, et que vous reconnaissez dans les propos de nos trois invités, Mario de Panossian, Cécile Gull et Eric Dadian, n'hésitez pas, le standard est à vous, 33 1 84 22 71 71. Eric Dadian, vous l'avez légèrement évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de ce suffixe « ian » comme étant votre étoile de David. Alors, je vous demande, à vous, Mario de Panossian, pourquoi est-ce que tous les Arméniens ont un nom qui se termine par « ian » à l'exception de Cécile Gull ?
Alors, d'abord, c'est exactement ça. Je pense que nos différents patronymes ici reflètent bien la situation, c'est-à-dire que la majorité des Arméniens portent un patronyme en « ian ». Pourquoi ? Parce que ça vient du Perse. Les Arméniens, pour faire très très court, les Arméniens sont un très vieux peuple, 3000 ans d'existence.
Oui.
On a été sous domination perse pendant un temps, puis sous domination ottomane. Lors de la domination perse, on a fait des emprunts à la langue perse et le yan est simplement une marque de déclinaison. Il me semble que c'est un génitif, je peux pas vous l'assurer complètement. Et les Arméniens portant plutôt des noms de famille au départ turc, Kuyum par exemple, oui, qui veut dire bijoutier en turc, est devenu Kuyum Djian. Comme ça, le yan permettait d'identifier qu'on n'avait pas affaire à un turc, mais à un arménien. Mais, donc ça c'est pour la majorité des arméniens, mais il y a aussi toute une partie des arméniens qui sont restés après le génocide en Turquie et qui ont été obligés de turquifier leur nom pour ne pas être montré du doigt directement.
Et pas être identifié comme...
D'être identifié et d'être victime.
Et
d'être victime d'élimination, de discrimination et d'être traité comme un citoyen de second zone, ce qu'ils étaient de toute façon.
Est-ce que le yan n'a pas aussi une signification comme fils d'eux?
Alors
comme...
c'est ce qu'on dit, mais alors moi je suis pas une linguiste. Je crois que c'est très possible, en fait, en réalité.
Très bien. Alors, nous disions avant la musique que ce souvenir, ces histoires impactent forcément, ont impacté les enfants que vous étiez et les enfants arméniens qui ont entendu ces histoires. Impacté parce qu'il y a une obligation de se tenir bien, de s'intégrer bien et de faire mieux, de travailler mieux que les autres. Mais pas seulement.
Non, pas seulement parce que, d'abord moi je parlerai pas simplement c'est pas une obligation morale, c'est pas un impératif moral, c'est quelque chose qui allait près de soi. Voilà, qui allait de soi parce que, effectivement, nos grands-parents, j'appartiens moi-même à la troisième génération, nos grands-parents ont été accueillis ici. Ils étaient contents d'être accueillis dans un pays où ils n'étaient pas éliminés au seul motif qu'ils étaient arméniens. Donc ça, déjà, c'était la première chose.
Et donc, est-ce qu'ils ont...
C'est ce que vous disiez, ils étaient reconnaissants à la France, et ils nous ont transmis cette reconnaissance. Voilà, ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est que les Arméniens sont reconnaissants, etc. C'est formidable, c'est vrai. Mais les Arméniens ne sont pas que des victimes. C'est un peuple debout. Ça a été, à partir de la troisième génération, surtout, et pour des raisons économiques, sociales et culturelles, un peuple en lutte. Voilà. Les Arméniens ont fait preuve de résistance, comme ils en ont toujours fait preuve à travers 3000 ans d'histoire. Nous sommes debout, nous exigeons une reconnaissance de la Turquie, nous nous battons pour ça, et la communauté arménienne, et là je reviens à notre sujet de départ, la communauté arménienne aujourd'hui en France, comme partout ailleurs, est cimentée autour de cette idée.
De nombreuses associations, 400 environ, au moins 6 établissements scolaires arméniens, dont un lycée à Marseille et une centaine d'écoles du samedi ou du dimanche pour l'enseignement de la langue arménienne. Et si c'était ça, le secret de la vitalité de la diaspora arménienne, se souvenir pour mieux être et donc mieux agir, mieux vivre. La diaspora arménienne est notre invitée, les voisins. Connaissez-vous des Arméniens là où vous vivez? Que vous inspire cette expérience arménienne? 33 1 84 22 71 71. Et nous retrouverons Mario de Panossian, Cécile Gull et Eric Dadian après le flash.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Merci. Merci d'être avec nous. Les voisins, c'est 7 milliards de voisins jusqu'à 13 heures. Quand on dit Arménie, on pense souvent massacre de 1915, mais pas seulement. Les noms célèbres en yan viennent alors à la mémoire des reines de la télé-réalité Kardashian, fille du célèbre avocat, mais aussi les Boyadjan, photographes, famille de photographes à la cour du Négus en Éthiopie. Qui sont les Arméniens? Comment fonctionne cette communauté en France particulièrement? Puisque j'ai commencé par vous donner des exemples disséminés dans le monde, mais comment fonctionne la communauté arménienne en France? Nous avons trois invités pour en parler, Mario de Panossian, Cécile Gull et Éric Dadian. Mario de Panossian, avant le flash, nous parlions de cette dynamique propre à toutes les communautés, toutes les diasporas, mais puisque nous intéressons à la diaspora arménienne, la diaspora arménienne se déploie beaucoup à travers les associations. 400, ça me paraît énorme pour une population de 600 000 sur le territoire.
Oui, mais je crois que le monde arménien est à l'image du monde français. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de...
Une vie associative très
voilà,
riche.
Voilà, absolument.
Donc c'est une
beaucoup
manière de
bénévolat,
s'adapter.
Bien sûr, parce que la communauté arménienne, elle s'adapte là où elle est. Donc en France, elle copie, entre guillemets, le modèle français. Et puis ces associations ont aussi une autre vertu. Elles permettent de se retrouver, de partager des moments ensemble, des moments d'amitié, des moments de joie, des dîners, des préoccupations. Ça tisse du lien.
Voilà. Et en faisant mes recherches, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi énormément d'associations politiques ou qui s'intéressaient à la politique.
Mais parce que être arménien, c'est forcément quelque part aussi être politique vu la situation dans laquelle on se trouve, non ?
Et pas que politique, c'est-à-dire quand la première génération est arrivée en France, ils aimaient bien se retrouver parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix autour de l'Église aussi. Hein. Je pense que c'était
absolument.
Le pilier pour partager ensemble évidemment le drame.
Donc ça a d'abord été construire. Plutôt
d'abord l'Église, et puis après un certain nombre d'associations se sont créées, des associations professionnelles, on en parlera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a plaisir et on a moins de honte, je pense, avec cette troisième génération à dire qu'on s'appelle Yan. On a, nous, dans notre association du CPA, aujourd'hui, on a plaisir à se retrouver, à se donner du business, à s'entraider, à essayer de se financer pour certains projets d'entreprise, à aider les jeunes à trouver un emploi ou de la formation. Donc, on voit bien que cet esprit d'entraide et de coopération, de collaboration, arrive avec beaucoup moins d'inhibition que mon grand-père ou mon père. Mon père avait, et mon grand-père avait honte, il faut le dire, d'être arménien.
Sûr,
et ils apprenaient le français, ils s'intégraient
et
ils n'en parlaient pas.
Et pour cause, il faut dire pourquoi.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'ils avaient honte d'être arménien, parce que ils ont pas toujours été très très bien traités par les populations. Mon père me racontait qu'il se faisait traiter de tête d'arménien, de sale arménien,
comme les Italiens,
d'étrangers, bien sûr, qui venaient manger le pain des Français.
Oui.
Donc il y a eu une époque qui était très dure, comme donc, pour tous les immigrés.
Donc l'histoire de la diaspora arménienne est quand même prise dans une double tension de volonté de s'ancrer, en même temps de honte de son histoire et un peu de son identité. Et c'est la génération, la troisième génération qu'intervient la libération. Vous êtes Cécile Gull, vous faites partie de cette troisième génération qui s'ancre et qui en même temps s'organise.
Voilà, alors je suis donc la présidente du G2IA.
Oui.
C'est une association de professionnels arméniens. Il s'avère que lorsque j'ai débuté mes études supérieures, eh bien, j'avais créé la section des étudiants dans cette même association. Et en fait, nous avons un rôle effectivement de créer du lien entre les experts de différents domaines en France. Par rapport à l'Arménie, nous avons une présence depuis plus de 20 ans où finalement nous mettons en place des programmes d'échange d'expertise, de transfert d'expertise là où celle-ci est demandée. Et puis, nous avons aussi tout un réseau à l'international, puisque nous participons à l'ATN, qui est l'Armenian Trade Network, qui a un réseau de chambres de commerce et de groupements comme le nôtre à travers le monde. Et c'est passionnant parce que nous mettons en lien des gens de Palo Alto, des gens d'Argentine, de Buenos Aires, de Sydney.
Qui ont pour socle commun cette histoire terrible ?
C'est
pas le sujet.
C'est pas du tout le sujet. Le sujet est d'aller de l'avant, de voir là où il y a des expertises pour qu'elles s'échangent, elles se renforcent, et également, je dirais, en toute amitié avec des gens qui ne sont pas arméniens. qu'on associe volontiers dans notre dynamique et qui nous associent eux-mêmes dans leur dynamique. Et je peux prendre un exemple parce que c'est un exemple agréable. Il s'avère que nous avons participé activement depuis la France à l'ArmTech Congress, qui est en fait une conférence qui a lieu tous les ans, une fois à l'étranger, une fois en Arménie, autour des nouvelles technologies. Et dans cette dynamique-là, nous avons rencontré les gens de Synopsys, qui est une très belle entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs, un leader dans le monde dans ce domaine. Et c'est une entreprise de Californie qui a monté son centre, l'un de ses centres R&D, oui, à Yerevan. Mm-hmm. Et donc, vous avez là quelque chose de, je dirais, qui est ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire où il y a de l'excellence arménienne et de l'excellence internationale qui travaillent dans un but, et finalement, c'est ce qui nous plaît.
C'est cette ouverture sur le monde à partir de la conscience de son identité de départ.
Exactement.
Je pense qu'on a une chance extraordinaire. Elle a raison, Cécile, de rappeler qu'aujourd'hui, on est ouvert sur le monde, il n'y a plus de frontières. On a une double culture. Et arménienne et le pays qui nous a accueillis. Mmh. C'est une force qui nous permet tous les jours de nous battre, en tous les cas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des nantis, on n'est pas arrivé avec...
Loin de là.
On n'est pas des rentiers, il faut tout reconstruire de zéro, et même cette troisième génération doit continuer à construire. Ouais. Donc cette chance qu'on a d'avoir une double culture nous permet de nous adapter dans tous les pays et dans le monde entier.
Est-ce que vous diriez, autour de cette table, que c'est ce qui caractérise l'une des caractéristiques de votre communauté, l'adaptabilité?
Bien sûr.
Oui, moi j'ai eu la chance de vivre 2 ans aux États-Unis. Si j'avais pas été arménien, j'aurais pas pu me développer.
C'est-à-dire ?
C'était dans un secteur du bijou, et oui, vous savez qu'à New York, quand vous arrivez en 82, jeune français, au moment où Mitterrand passe, on vous considère comme un pays communiste et on vous dit bon ben on va vous tuer économiquement. Vous ne représentez rien, vous êtes communiste.
Vous n'avez pas de poids.
Quand vous dites que vous êtes d'origine arménienne, immédiatement vous avez l'ouverture avec le réseau juif qui vous ouvre les portes, souvent secrètes, du monde du bijou, et qui vous apprennent à reconnaître justement des pierres et des bijoux. Et à ce moment-là, vous pouvez survivre économiquement, parce que vous faites partie d'une minorité comme eux.
Et c'est comment ? C'est la fin de la honte aussi ?
C'est la fin de la honte, c'est la fierté d'avoir cette double culture, et on utilise les deux à bon escient, c'est
Mario
le cas de le dire.
Mario de Palencian.
Même s'il n'est pas arménien.
Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est presque, pardonnez-moi l'expression, mais c'est presque génétique chez nous, cette capacité à s'adapter. 3000 ans d'histoire, envahie plusieurs fois, obligée de vivre sous des régimes qui ne sont pas des plus agréables. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter, vous mourrez.
On disparaît, point, tout simplement. 7 milliards de voisins et leurs voisins arméniens aujourd'hui, jusqu'à 13h avec nos trois invités. Et tout de suite, la musique d'Aiko, ça s'appelle un tchap et tap. Pardon pour la prononciation.
Der Bund zink mich in Bach, da Blut Bund zink mich in Bach, kuja te Bum Bund zink mich, bin a Gach, Hotelo, a Blum Bin a Kuiso, a Blum, a Ranz Luz, a Ranz Gaz, a Ranz Chur, a Ranz Hatz, a Ranz Boch, a Blum Bund zink mich, et amen in Chimassin, der Asun Bund zink mich, et amen in Chin, Karodun Bund zink, spassum, wo Chure ga Spassum, mich, bund zol tach, spassum, massira, zach, chiga Bund zink, spassum, wo Luise ga Spassum, mich, kanet, wo Piti, Karu, chikana Wo Luise, te Talis, ein Epijam, nur Ego Ժամը վեր ամարեց մին քեր ճանկության ակնդարու է Մի ակնդարդու մաման հասցնում էր ամեն ինչ Լված ճաշ հարդու կեր սերյալ նայել Կամ էլ իշտում ենք մաշտի ծակում ու լատերը հանում ենք Մի ասնում ենք փոքր տելևիզորին նայում ենք Ինչ ասես անում ենք մենակ թե լույսը լի Դե վիրուս քաշում ենք ու մից որ պատահի Հիշում եմ հացի համար անվերջ երկար հերթերը Հիշում եմ սպասելու ծոքնած ժարդված ոտերը Էդ հերթերը այնքան երկար են որ հիշում եմ ինձ թվում ա որ մինչև հիմա ես էդ հերթի մեջ կայացը Հիշում եմ դեպի սպանատան դեմի հերթերը Հիշում եմ մեր պարտքան սաղի դեմքերը Որ նայում էին դեպի դուրս հույսները կորցրած Կյանքից հիաստապած, երկրից հիաստապած Էդ ու դեմքերն են, որ երեք չկային են սոր եկել են Որ Երևանում հիմա ուրախ զվարթ ապրում են Ինձ կհասկանա, մենակ են մարդը Որ եղել աստեր, իմ հետ անցել է այդ դժվար էտապը
Il s'appelle Aiko et ça s'appelle un tsap et tap. Et Mario de Panossian nous disait que c'est de l'arménien d'Arménie.
Oui,
c'est ce que nous entendons là. Merci pour la précision.
De l'arménien oriental.
De l'arménien oriental, voilà. Les voisins aujourd'hui, ce sont les Arméniens, la diaspora arménienne qui est au cœur de nos échanges, évidemment, puisque nous sommes le 24 avril, journée consacrée à la commémoration du massacre des Arméniens en 1915, qui a donné lieu à, au génocide dont nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler, nous ne parlons pas du génocide, mais plutôt des descendants des rescapés du génocide. Trois d'entre eux sont autour de la table, dont vous, Cécile Gull, qui nous montrait, vous nous disiez pendant la musique, que eh bien, les Arméniens se mettent aussi à la place, et sont vraiment 2.0. Il y a même une application autour de cette reconnaissance.
Exactement. Donc, à titre d'exemple, nous avons eu l'idée de lancer une appli.
Qui est ce nous dont vous parlez?
Alors donc c'est en fait c'est l'un des membres du G2IA, d'accord, Philippe, qui a eu l'idée de créer une appli un peu sur le schéma de Je suis Charlie et qui a été développée en Arménie, puisqu'en fait en Arménie il y a une très forte expertise dans les nouvelles technologies. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas beaucoup de matières premières, mais en fait
il y a
de la matière grise et elle mérite d'être mise en valeur. Et donc il y a une belle équipe à Gyumri qui a développé cette appli qui marche sur iPhone et sur Android et qui s'appelle Hishel, et elle s'écrit Hishel. Vous pouvez donc la télécharger sur tous les téléphones, et aussi il y a une petite page web hishel.org. Et en fait, il s'agit simplement en la téléchargeant, de manifester, on dirait, sa communauté de conscience et sa solidarité
avec
la cause arménienne et notre effort de nous souvenir du génocide, et surtout d'acter pour sa reconnaissance et le fait que nous puissions sereinement, très prochainement, passer à une nouvelle étape.
Alors, je ne sais pas si vous êtes passé à une nouvelle étape, Éric Dadian, mais avec ce souvenir, avec cette histoire, vous avez développé une carrière qui mérite qu'on s'y attarde. En 97, vous avez fondé une société prestataire qui s'appelle Intracall Center, avec 1000 collaborateurs, et en 12 ans, votre chiffre d'affaires est passé de 1 million de francs à 30 millions d'euros.
Oui, et il a fusionné après avec une autre entreprise pour monter à 130 millions d'euros et faire 4000 salariés. Surtout pour vous dire que ce qui a guidé en fait mon parcours et ce qui m'a permis de réaliser cette entreprise et de la développer, c'était ce que m'enseignait mon père. Mon père était lui-même entrepreneur, il s'était beaucoup engagé au MEDEF, il était président de l'agence pour la création d'entreprises, et encore une fois, ce qui nous intéresse quand on est issu d'origine arménienne, c'est de créer. On a faim. Donc, j'ai créé une entreprise en 95 qui est montée à 10, 100, 1000 emplois. Je me suis installé dans une ville, mais là encore, ça ne suffisait pas. Une ville qui s'appelle Amiens. Et donc, dans cette ville, j'ai décidé de m'engager parce que Gilles de Robien, qui était le maire à l'époque, m'avait dit intègre les populations issues de la diversité.
Tu es toi-même immigré.
Et donc, je suis devenu son conseiller. Donc, si vous voulez, tout a été guidé par cette origine arménienne. On a développé dans cette ville 4000 emplois, on a sorti cette ville de la misère, puisque moi je suis persuadé que l'emploi redonnera une dignité aux gens dans ce pays qui en manque crûment. Donc c'est par l'entrepreneur avant tout qu'on réussira. Et là, plus récemment, je me suis associé avec un autre émigré qui est Hervé Novelli, qui est d'origine italienne, et nous avons décidé ensemble...
Je me demande s'il se labelle lui-même comme ça.
Si, on lui a même demandé de changer son nom, de s'appeler Novellian.
Mais qu'est-ce qu'il a répondu?
Il a dit oui, pourquoi pas. Donc on est en train de créer une communauté qui s'appelle WikiPME d'entrepreneurs pour fédérer l'ensemble des entrepreneurs en France, pour encore une fois créer de l'emploi, créer de la richesse, faire du développement, replacer l'entreprise au centre de la société française. Tout ça sont des engagements. C'est-à-dire qu'au-delà de créer une entreprise, je me suis engagé. Modestement, on a réussi, c'est vrai, à créer beaucoup d'emplois et à sauver des gens de la misère. Et on en est très fiers. Et après, j'ai décidé aussi de créer une entreprise en Arménie. Donc, j'ai créé un centre d'appel en 2007, Intracall Center Arménie.
Comment avez-vous été accueilli, d'ailleurs?
J'ai été accueilli très bien, et j'ai refait exactement ce que j'avais trouvé sur Amiens. C'est-à-dire que j'ai trouvé des réseaux, des locaux, et puis de la formation. Donc, j'ai frappé à la porte de l'UFAR, que connaît bien Cécile, qui est une université, pour aller chercher des ressources. On a formé les gens à nos métiers de service, aux métiers de relations clients. On a créé 50 emplois en 2 ans. on était très fiers, c'est la plus grande fierté. D'accord, l'entreprise gagnait pas d'argent. Mais vous voyez, quand vous voyez 50 personnes qui vous sourient, qui travaillent comme avec les mêmes, exactement les mêmes critères qu'en Europe, croyez-moi que vous êtes content le soir quand vous vous couchez.
Quoi. Mario de Panossian, des trajectoires comme celle d'Éric Dadian, vous en relatez beaucoup dans les journaux, dans les nouvelles d'Arménie?
Dans les nouvelles d'Arménie, on est mensuel, donc il n'y en a pas tous les jours, mais oui, il y a quand même beaucoup de réussites, parce que je pense que Éric Dadian dit quelque chose qui est très vrai. Au départ, on a faim. Donc on a faim, on vient pas de familles qui appartiennent à l'élite, etc. Donc il faut tout recréer par soi-même.
Et même
donc,
quand on vient de familles qui appartiennent à l'élite, on arrive en France, on repart de zéro. Oui.
Voilà, donc on repart de zéro, et parfois le plus simple, c'est de créer sa propre entreprise. En plus, je pense que les Arméniens ont comme ça une tendance à aimer à être leur propre patron.
La
liberté, le côté indépendant, etc.
On peut en citer, hein, si vous me permettez, Jacques Terzian, Didier Parra, Rafi Aladjian, qu'on connaît bien, qui a fait Mother and the Cookies et le fameux Nabastak, qui veut dire le lapin en arménien, Louis Karzou, Robert Vassaillant, qui est le directeur de Cisco. Il y en a plein d'Arméniens
et alors en France, mais également à l'étranger. Moi, j'ai appris en préparant cette émission, par exemple, que le célébrissime hôtel Raffles de Singapour a été fondé par une famille de 4 frères arméniens, et le monument, l'hôtel est d'ailleurs classé désormais monument historique à Singapour.
Et oui. Il est d'ailleurs pas très loin de la petite église qui est un petit bijou, l'église arménienne de Singapour.
Et Singapour qui compte une communauté d'une quarantaine de personnes, une quarantaine d'Arméniens aujourd'hui.
Oui, ça doit être ça. Je crois que
maintenant, beaucoup ça augmente.
Oui. Avec beaucoup de jeunes.
Beaucoup de jeunes, oui. Mais c'est voilà. la première génération.
Ouais, ouais. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on arrive quelque part, on se dit qu'on va rester, donc il faut créer quelque chose. Voilà.
Donc, alors, seulement on crée, mais en plus, on transmet. Vraisemblablement. Ça a l'air d'être très important.
On transmet à nos enfants et on s'engage. On s'engage dans des mouvements patronaux ou des mouvements associatifs ou religieux, mais on s'engage. On va au-delà de simplement créer. Et oui, on transmet à nos enfants. Alors, le risque que nous avons tous, je ne vais pas parler d'auto-génocide, mais c'est de se marier, d'avoir nos enfants qui vont petit à petit perdre le nom. Donc ça, c'est un risque qui peut arriver. Mais
ce que j'ai lu, c'est qu'il y a plus de 80% de mariages
mixtes
chez les Arméniens. Oui, donc c'est une crainte que vous soulevez, Éric Dadian.
Ça peut arriver, puisque c'est vrai
risque d'arriver
bientôt. La langue, on peut se rassembler autour de la cuisine, mais ça suffit pas.
D'où la nécessité d'avoir une communauté forte avec des organes de presse, des écoles. Des entreprises,
des cours du soir, des
clubs de sport, etc. Parce que l'idée, c'est pas de perdre quelque chose en route. L'idée, c'est de rester avec deux jambes, deux cultures, d'être ouvert au monde. Mais être ouvert au monde, ça veut pas dire avoir moins. Ça veut dire avoir plus.
Cécile Gull, cette double dynamique décrite par Éric Dadian, implantation et ancrage ici, implantation et ancrage redonné en Arménie, vous le faites aussi?
Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous me posez la question plutôt par rapport à l'association ou par rapport à mon parcours?
À votre parcours,
d'accord.
À vous?
Eh bien, en fait, en ce qui me concerne, je mets en valeur l'expertise française à l'étranger et je représente une PME française en Algérie en ce moment, qui est, qui fait ce qui se fait de mieux dans le monde, dans la formation et en utilisant les nouvelles technologies. Alors ça vous surprendra un petit peu parce que c'est en fait une activité de niche, mais il s'agit en fait d'une technologie qui permet d'apprendre et de faciliter l'apprentissage à la conduite d'engins de construction. Et effectivement, c'est en fait sur le même schéma que ce qui se fait pour les pilotes d'avion. Mais il s'avère que dans des pays qui sont en plein boom économique où tout se crée, des villes sortent de terre, voilà, il y a de quoi faire avec les simulateurs et où les programmes du ministère de la formation ne sont pas encore bien développés. Mais pour moi, c'est une vraie fierté, et c'est vrai que quand je vais en Algérie et que je parle de ce que je fais et que je m'adresse aux différents PDG, parce que mes interlocuteurs sont des PDG, effectivement, je dis que je représente une belle entreprise française et que je suis d'origine arménienne.
Et là, il y a une double réaction.
Et il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas, parce que c'est vrai que dans mon parcours jusqu'à présent, dans ma première vie professionnelle, je n'avais pas eu à rencontrer de personnes d'origine algérienne en France. Et il se passe un déclic qui fait que je me rends compte que cette biculturalité, comme vous le disiez, est quelque chose qui est un peu magique. Bon, c'est pas automatique, mais tout d'un coup, je vois un sourire et la dynamique change complètement.
Et à quoi vous l'attribuez, ce sourire ?
Eh bien, en fait, il y a une émotion et je découvre que nous avons une sensibilité qui fait que par des parcours parallèles, par une histoire, parfois des moments de souffrance, il faut le dire, il se fait que il y a une écoute différente qui peut ouvrir sur un échange assez inattendu.
Et donc plus de marché aussi.
Et donc plus de marché pour des entreprises
et plus
françaises.
De confiance.
Exactement.
Pour reprendre votre question, je pense que Cécile n'ose pas aussi dire tout ce qu'elle fait pour l'Arménie, mais je pense qu'on
alors
se doit,
pour elle.
En tant que diaspora, il faut qu'on redonne aussi à l'Arménie. Si nous, on n'est pas capable, pas uniquement de l'argent, je pense que c'est du temps, c'est de la formation, c'est des réseaux, pour apprendre peut-être à des jeunes, à travers des incubateurs, ce que fait très bien Cécile avec le GDZA, à construire leur start-up. Si on ne redonne pas à l'Arménie, venant de la diaspora, ce pays, petit à petit, va se déliter et va perdre ses ressources. Donc il faut, on a une obligation nous-mêmes de revenir vers ce pays. Pourquoi nous, on est en France et pas en Arménie ? On peut se poser cette question.
Alors, à ce sujet, ensuite, effectivement, je peux rebondir. Effectivement, au G2IA, nous avons aussi un bureau qui s'appelle le CARI, qui, en fait, a été créé pour accueillir les entreprises françaises, européennes, voire même des États-Unis, et pour les accompagner en Arménie. Et il s'avère que je suis allée même à Téhéran en février dernier, et j'ai rencontré des amis de l'INSEAD qui y vivaient. Ils m'ont dit, mais Cécile, nous on aimerait bien aller en Arménie pour explorer des ouvertures éventuelles. Et je leur ai dit, écoutez, adressez-vous à notre bureau. Ils s'y sont rendus avec un programme de rencontres dans l'informatique et dans différents domaines, et ils ont été ravis. Et en fait, il s'avère que c'est vrai que les échanges peuvent avoir lieu de façon très différente. Il se peut aussi que même pour la France, l'Arménie puisse être aussi un endroit pour rencontrer des entreprises et des entités qui seraient d'Arménie ou d'Iran ou même de Chine, parce que la Chine s'intéresse aussi beaucoup à l'Arménie pour diverses raisons, mais ça peut être une plateforme qui facilite des échanges là où on pourrait pas forcément
le
s'y attendre.
Le centre du monde, c'est l'Arménie en fait, entre l'Orient et l'Occident.
Quelle belle conclusion, Éric Dadian, Mario de Panossian.
Non, mais je pense que vous avez complètement raison. Effectivement, il faut garder le lien, et un lien de plus en plus fort avec l'Arménie, qui est aujourd'hui le seul pays qui nous reste, il faut bien le dire. Il faut quand même préciser pour nos éditeurs, qui savent pas forcément, que aujourd'hui, j'ai envie de dire, la Turquie et l'Azerbaïdjan essayent de tuer l'Arménie grâce ou à cause du blocus économique qu'elle nous impose. Donc si nous, en diaspora, on n'amène pas de l'air frais, on ne les aide pas à s'ouvrir sur le monde, si on n'est pas une porte pour eux, mais comment ils vont faire ? Et en plus, je voudrais aussi dire que l'Arménie nous le rend bien, parce que on est content d'aller en Arménie, parce que malgré toutes les imperfections, ça reste un point d'ancrage, c'est une langue, c'est quand même des gens
qui nous ressemblent.
Qui nous ressemblent
nos grands-pères
énormément.
Sont dans les rues.
Absolument,
les
absolument.
Donc
absolument.
C'est bien,
c'est très troublant.
Mais c'est bien, vous, la boucle est bouclée finalement, ce poème de Birago Diop dont je citais un extrait en début d'émission, ceux qui sont morts ne sont pas morts, les morts ne sont jamais partis.
Absolument.
Vous venez de le confirmer. J'aimerais, pour qu'on se dise au revoir, Cécile Gull, que vous me parliez de ce que cette arménité vous a apporté. Cette conscience de votre arménité, rapidement, en quelques mots, les uns et les autres.
Alors, effectivement, cette arménité, finalement, je le vis comme un cadeau. Un cadeau parce que ça a finalement développé en moi une sensibilité qui me montre, en fait,
combien ça m'a permis de m'ouvrir et d'être intéressée par la différence, de et d'être, je dirais, autant que possible à l'écoute de personnes que je rencontre dans ma vie personnelle et surtout professionnelle, et que finalement j'ai sympathisé de façon inattendue avec
des gens du monde entier. Merci Mario de Panossian. Quelques mots, l'arménité.
Je trouve que c'est formidable. Ça m'a tout apporté. Ça m'a appris l'esprit de résistance. Ça m'a obligé à réfléchir à des thématiques auxquelles j'aurais jamais été confrontée sinon. Ça m'a ouvert des mondes, apporté des amitiés, et ça m'ouvre. Ça m'ouvre.
Éric voilà. Dadian.
Moi, ça m'a permis de m'adapter à, dans toutes les situations qui étaient difficiles. Hein. Évidemment, quand on crée une entreprise, il y a plein d'embûches. Et moi, je suis allé rechercher. C'est-à-dire que comme j'ai pas été élevé forcément à cette arménité, j'ai épousé une arménienne. Je suis rentré dans une famille, je cite le nom de ma belle-mère, qui était une femme extraordinaire, Tamara Kocharian, qui m'a fait découvrir encore plus cette arménité à travers la langue, la joie de vivre, la générosité, tout ce qu'on sait, et toutes les valeurs que portent les Arméniens aujourd'hui.
Merci beaucoup à chacun. Il n'y a pas que le génocide, murmure Mario de Panossian. Merci de nous l'avoir fait comprendre en moins d'une heure. Les voisins, merci pour votre attention. Merci également à l'équipe 7 milliards. J'ai pris grand plaisir à passer cette semaine avec vous. La semaine prochaine, les voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide dans une sélection d'émissions rediffusées. Lundi, ce sera le curriculum vitae, indispensable pour trouver un emploi. Mais les recruteurs se plaignent de plus en plus de CV racoleurs, de CV menteurs. Alors comment rédiger un CV vendeur? Tout simplement, tous vos témoignages, toutes vos questions à nos spécialistes sont dans 7 milliards. Je vous souhaite une belle journée, bon week-end à l'écoute de RFI.